Écoute un métier, le podcast qui te permet de construire ton avenir sur Radio Campus Tours. Salut, c'est Camille. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écoute un métier. Comme tu as pu le voir dans le titre, je vais te présenter aujourd'hui un métier en lien avec la communication. Un milieu qui attire beaucoup de jeunes étudiants. Mon invité est Oksana Richard, responsable de communication à la CPM depuis le début de l'année. Elle va nous parler de son parcours, aussi bien pédagogique que professionnel, ainsi que de l'avenir des métiers de la communication. Je te souhaite une bonne écoute. Oksana Richard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable communication à la CPM de Tours depuis 5 mois. Avant, vous étiez chargée de projet, toujours à l'assurance maladie, pendant 4 ans. Vous avez travaillé dans plusieurs grandes entreprises françaises, telles que la SNCF ou EDF.
C'est bien ça.
Donc, j'ai une toute première question à vous poser. Pouvez-vous expliquer aux auditeurs le rôle et les objectifs de la CPM, ainsi que du service communication de cette dernière ?
Alors, à la CPM d'Indre-et-Loire, on fait partie de l'assurance maladie et de la grande famille sécurité sociale. On a 3 grandes missions. Protéger la santé de chacun, c'est une facette qu'on ne connaît pas forcément beaucoup a priori de l'assurance maladie. Principalement, c'est de la prévention et des démarches d'accompagnement vers des publics fragilisés, des personnes qui sont en renoncement aux soins par exemple, ou des personnes qui sont touchées par des maladies de longue durée, etc. Donc on a vraiment des démarches pour accompagner en termes de santé toutes les populations avec leurs spécificités. Notre deuxième grande mission, c'est l'accès aux droits et aux soins pour la majorité de la population, c'est-à-dire les remboursements des soins et des arrêts maladie et les financements des établissements de santé et des professionnels de santé. Le troisième grand axe, notre troisième grande mission, qui est pour le coup elle très très peu connue du grand public, c'est assurer la pérennité du système de santé. Nous sommes financés sur des fonds publics, donc nous avons un devoir de pérennité, de bon usage des fonds publics. Ça passe notamment par des objectifs et la lutte contre la fraude.
Est-ce qu'il est possible d'être un peu plus précis sur la différence entre un pôle communication donc à la CPM et un pôle communication en agence de com, tout simplement? Enfin là, on ne parle plus d'un pôle, mais tout simplement une agence.
Alors nous, notre service communication, on a la particularité, mais comme beaucoup de services de communication d'entreprise, de gérer à la fois la communication interne et la communication externe. Donc on s'occupe de toute la communication grand public et vers les professionnels de santé.
Des campagnes par exemple ?
Des campagnes, des événements. Notre particularité par rapport à une agence, ça va être que nous on ne vend rien. Mmh. On est vraiment là pour accompagner, on n'a rien à vendre. On vend entre guillemets nos services, nos accompagnements, mais il n'y a aucune logique commerciale derrière. C'est la particularité de nos communications. Et l'autre particularité, c'est que globalement, on s'adresse à tout le monde. Alors, on a quelques sujets qui sont ciblés, mais globalement, en fait, l'assurance maladie parle à tout le monde. Voilà. Et on a aussi une autre cible pour notre service communication, qui est tout l'interne, donc tous les salariés de la CPM d'Indre-et-Loire, donc 420 personnes.
Vous avez parlé justement d'événements que vous, dont vous assurez la communication. Est-ce que là, à Tours, il y aura des événements prochainement auxquels vous participez ?
Alors, par exemple, on est partenaire de Running Loire Vallée chaque année. C'est l'occasion pour nous d'être visibles en tant qu'acteurs locaux, mais aussi d'inscrire nos salariés dans un esprit de cohésion interne. On organise depuis l'année dernière, donc ça va être la deuxième édition cette année, le Village Santé, qui pour le coup est une action de prévention avec des stands sur lesquels nos partenaires interviennent sur les sujets de prévention que nous portons. Donc, qui sera le premier mercredi d'octobre. Cette année, avec une cible plutôt jeune, vu qu'on est un mercredi. Et on organise chaque année en interne l'Assemblée générale, tous les 2 ans en interne l'Assemblée générale du personnel. Et on envisage d'autres petits événements au fil de l'année.
Et qu'est-ce qui vous prend le plus de temps? C'est la communication interne ou celle externe? Les
On
deux se
doit
valent?
être honnêtement à 50-50, je pense.
D'accord. Et vous avez dit aussi que la spécificité de la communication à la CPM, c'est que vous ne vendez rien et pourtant il faut toucher tous les publics. Comment arrivez-vous justement à être autant général parce que certaines campagnes pourtant touchent un public particulier, mais en même temps il faut aussi savoir s'adresser un public plus jeune, si par exemple on veut s'adresser à un public âgé. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu mieux à nos auditeurs?
Alors, pour nous, le grand challenge, c'est vraiment de s'adresser à tout le monde. Pour cela, on cible vraiment les campagnes. On essaye au maximum de faire en fonction des cibles de chaque thématique, de pas toujours faire que du très général, parce que quand on veut toucher tout le monde, on touche personne. Donc on essaye vraiment de voir qui va être touché, par exemple, par les sujets de dépistage d'IST ou de dépistage de cancer colorectal. Même si au final une personne de 50 ans peut être touchée par un dépistage d'IST, globalement on se focalise sur les jeunes pour ce genre de sujet. Et le dépistage cancer colorectal, globalement on se focalise sur les personnes de plus de 50 ans. Donc voilà, après on adapte aussi nos canaux et nos formats de communication en fonction de ces cibles. Pour les jeunes, on va plus aller vers des réseaux sociaux, vers des supports web ou vers des relais publics, alors que pour des personnes âgées, on va plus intervenir sur France Bleu Touraine ou dans la Nouvelle République. Voilà. Donc c'est toujours ce petit jeu de voir où est-ce que je m'adresse à qui, et ce qui n'est pas toujours simple parce que nous, on n'est pas toujours dans la cible, donc il faut aussi se mettre à la place des personnes concernées.
Vous avez été indépendante pendant presque 3 ans. Pouvez-vous expliquer ce que fait un conseiller en com auto-entrepreneur?
Alors, j'ai envie de dire, il y a autant de. Chaque personne s'adapte à son client. Donc, il y a autant de conseillers comme que de clients. Et puis, chacun a ses spécialités, ses spécificités. Moi, j'accompagne un club de sport, principalement. Après, j'avais d'autres accompagnements. L'idée, c'est vraiment de les conseiller sur leur image. Sur les moyens qui. Alors, vu que j'accompagnais surtout des PME, comment avec peu on peut faire beaucoup? Et c'est ça surtout l'idée, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des budgets comme à 100 000 euros pour faire des campagnes, pour avoir un compte sur les réseaux sociaux, pour trouver des relais d'information et puis aussi pour travailler son image. Avoir déjà rien qu'un logo, une carte de visite, un site internet avec un slogan approprié ou une plaquette de prix claire avec des éléments clairs. Avoir déjà rien qu'une plaquette de prix, des éléments clairs, un logo, tout bien carré avec une carte de visite qui vraiment reflète votre entreprise et ce que vous faites, déjà rien que ça, c'est avoir une communication efficace. Et rien que ça, c'est déjà un grand premier pas pour beaucoup d'entreprises.
Oui, parce que le rôle de la com, c'est non seulement attirer des clients, mais aussi les fidéliser et faire en sorte qu'ils restent.
C'est ça.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la communication? D'où vous est venu cet attrait?
Alors, l'expérience. En fait, j'étais à la base en alternance sur un domaine viticole en tant que commercial. Donc, je faisais des salons, je faisais de l'import-export et je faisais des dégustations. Et en fait, ce qui m'a le plus plu, c'est d'organiser des participations au salon, d'organiser des portes ouvertes. Et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être refaire la plaquette du magasin. Et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose qui cloche dans mon orientation. Il est peut-être temps d'aller faire autre chose.
Quelle formation avez-vous suivie?
Alors moi, du coup, j'ai un DUT en technique de commercialisation. J'étais commerciale à la base. Et après, j'ai fait une licence de chef de projet de communication en IUT à Paris Descartes. Donc pour avoir une base assez généraliste et puis vraiment prendre des bases solides en communication vu que je suis arrivée en cours de route. Après, je me suis spécialisée. J'ai une double spécialisation en master. J'ai un master un M1 en stratégie digitale et un master 2 en communication événementielle et culturelle.
Et qu'avez-vous appris lors de ces études en communication?
Qu'il fallait des bases solides, qu'il fallait être clair dans ses messages, organiser, se mettre à la place des personnes qu'on cible. Et puis, quelque chose dont on se rend compte rapidement, qu'on essaye de nous inculquer en cours, mais on s'en rend pas si compte sur le moment, mais après on se dit qu'il faut rester tout le temps en veille et dans l'air du temps, parce que en communication, comme dans d'autres métiers, mais vraiment, c'est très accentué en communication. On est très vite dépassé. Il y a très vite des nouvelles tendances, des nouveaux moyens de communication et des nouveaux usages. Donc, il faut rester tout le temps en veille et tout le temps se former. Et c'est une évolution constante.
Comment s'assurer de la qualité des formations qui sont proposées? La majorité des écoles de commerce et de com délivrent des diplômes non reconnus par l'État et ne possèdent donc pas le RNCP. Cela est-il un frein pour vous lors de l'embauche?
Alors, c'est toujours une grande question. On s'interroge beaucoup sur les formations. Alors, il y a des formations très connues dans des IUT ou des écoles de com très connues. Donc, celle-là, on ne se pose pas de questions,
Mais
forcément.
il n'y a pas de la place pour tout le monde.
C'est ça. Et puis après, il y a beaucoup, 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 beaucoup de formations de com qui ne se valent pas toutes. Et au niveau du recrutement, on essaye de voir aussi les compétences. Pour moi, en tout cas, avoir un minimum sur un poste de chargé de communication, avoir un minimum de base de PAO, c'est l'essentiel. Savoir rédiger, c'est l'essentiel. Quelqu'un qui ne maîtrise pas l'orthographe, la syntaxe, la rédaction et a une connaissance à minima des outils de PAO, pour moi, en tant que chargé de communication, c'est pas possible.
Il faut expliquer aux gens ce qu'est un PAO.
La PAO, c'est. Effectivement, voilà, on revient dans nos langages. La PAO, c'est la suite Adobe, globalement, les outils de création graphique.
D'accord. Et donc, en fait, est-ce que vous regardez forcément si l'école elle peut être reconnue par l'État ou c'est vraiment plus les compétences
Non,
et les expériences?
c'est vraiment plus ce qu'on y apprend
Oui.
et les compétences au bout.
Que regardez-vous en priorité chez un futur salarié?
Je regarde vraiment ses compétences, ses expériences, et puis alors surtout sur de la com, un portfolio, un book
Oui,
qu'on
mais
présente ce qu'on a fait.
est-ce que vous regardez par exemple un profil, quelque chose qui sort un peu plus, une expertise ou vraiment quelqu'un de très généraliste?
Pour moi, le plus intéressant, c'est d'avoir une base solide généraliste et de se spécialiser quand même sur des compétences parce que. Bah, comme je disais tout à l'heure, quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Quand on sait tout faire, on sait rien faire, entre guillemets. On peut pas être. Il y a tellement de choses en communication, tellement de compétences qu'on ne peut pas être pointu sur toutes les compétences. C'est important d'avoir une vision sur tout, mais on ne peut pas être un bon graphiste, on peut pas être et un bon graphiste, et un bon monteur vidéo, et un expert en événementiel, et un expert en rédaction, et un expert en relations presse. On peut pas être. Enfin, il en existe peut-être, mais je les admire. Et on ne peut pas être expert partout. Et l'idée, c'est d'avoir une spécialité à apporter en plus à l'équipe pour constituer une équipe qui a un maximum de panels de compétences.
Souvent dans une équipe, est-ce que quelqu'un se voit attribuer les mêmes tâches, par exemple une tâche un peu plus rédactionnelle, une tâche un peu plus graphique? Est-ce que c'est le
Alors,
cas?
je pense que ça dépend vraiment des
Oui.
entreprises et de la taille des services communication. Nous, ici, on est 4 personnes, on a un petit service, on a un fonctionnement qui fait que tout le monde sait tout faire de base, à peu près, maîtriser à peu près les choses. Et après, chacun ses spécialités. On a une personne qui est plus sur la conception de contenu multimédia, photo, vidéo, web. On a une personne qui va être plus sur le rédactionnel, l'événementiel. Voilà, chacun ses spécialités, mais en l'absence de l'un ou de l'autre, tout le monde doit être capable d'aller un petit peu sur tous les projets.
Et j'y pense, concernant les graphistes, est-ce que quelqu'un qui a une formation de graphiste peut travailler en communication ou est-ce qu'il faut forcément quelqu'un qui a fait de la com et qui en plus a fait du graphisme et qui s'est spécialisé dedans?
Alors, Encore une fois, je pense que ça dépend vraiment de la taille des équipes. Dans une entreprise avec une équipe plus conséquente, on peut avoir quelqu'un qui fait vraiment, qui soit dédié au graphisme exclusivement et qui n'ait pas forcément besoin d'avoir une formation de chargé de com. Nous, sur ce format d'équipe, il nous faut quand même quelqu'un qui sache faire de la communication globalement, même si au final, la personne dans notre équipe qui fait de la conception multimédia n'a pas de formation de chargé de communication de base. Elle l'a appris sur le tas, on va dire un petit peu.
Pouvez-vous expliquer une journée type ou ce qui s'en rapproche le plus ?
Il n'y a pas de journée type dans la com.
Je me doutais de la réponse.
On arrive le matin en pensant faire quelque chose et souvent on fait tout autre chose. Globalement, on a de la gestion de projets donc à plus ou moins long terme. En fait, la com, en tout cas comme on l'a fait ici, c'est un mix entre de la gestion du quotidien, de l'information sur l'intranet, de l'information sur notre site Amélie, des fermetures d'accueil, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment de la gestion du quotidien et puis des projets à moyen long terme comme l'organisation d'une assemblée générale sur laquelle on va s'y prendre 6 mois, 1 an avant, des semaines internes de la qualité de vie au travail ou un projet comme le village hanté sur lequel on va travailler 6 mois avant. Donc c'est vraiment jongler entre du quotidien et de la gestion de projet.
Qu'est-ce que fait un responsable communication en plus de quelqu'un qui est chargé de projet ?
Alors, le rôle du responsable communication, en plus, par rapport au rôle de chef de projet, alors il y a tout l'aspect managérial que je vais vous passer, gestion des plannings, des congés, des équipes, des recrutements. Le responsable communication fait partie du comité de direction élargi et a un rôle de conseil auprès de la direction sur les axes de communication aussi bien en interne que sur l'externe, sur ses prises de parole. Le responsable communication est responsable des relations presse il est aussi responsable en fait de toutes les prises de position, enfin, il est en appui, en conseil sur toutes les prises de position de la direction auprès de l'externe.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier ?
Je crois que c'est ce côté, il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. Et puis, on a un rôle quand même, je trouve, clé dans l'entreprise et vers l'externe. On est là pour faire du lien. Et d'autant plus dans une entreprise où on n'a rien à vendre, on est vraiment là pour les autres. Et ce côté, se mettre à la place des autres et aller sur tous les supports, faire plein de choses différentes, c'est vraiment super enrichissant.
Oui, c'est un métier un peu... où on compte pas vraiment ses heures, c'est vraiment un métier où il faut être très dynamique et pas se reposer sur ses lauriers.
Il faut, je pense qu'il faut avoir envie. Il faut avoir envie, il faut aimer ce qu'on fait. Je comparerais pas ça à un métier passion comme les infirmières ou autres, mais si on n'a pas ce petit truc, cette envie d'aller chercher, d'avoir l'idée qui change, d'avoir le truc, bah ça peut se faire, hein, mais on va vite s'ennuyer, on va tourner en rond sur 4 articles, 2 affiches. Il faut avoir cette curiosité, ce twist. De voir les choses d'un autre œil.
Donc dans les qualités nécessaires, il faut être curieux, organisé, rigoureux,
oui.
Inventif.
C'est ça.
Créatif.
Créatif. Mais la créativité, j'aime bien dire que on dit tous, moi je suis pas créatif. En fait, c'est aussi savoir copier les autres à bon escient. Parce qu'au final, quand on y creuse un peu plus, on n'est pas des artistes. Les communicants n'est pas des artistes. Mmh. On est juste des personnes qui savent reprendre ce qu'ils ont vu d'une autre manière pour le réadapter à leurs besoins. Parce qu'on n'invente rien, on recrée beaucoup.
Avez-vous trouvé un emploi facilement à la sortie de vos études ?
Alors, oui et non. Un emploi stable, fixe, bien rémunéré, pas forcément. Mais après, je pense que c'est important en sortie d'études. Après, moi, j'avais l'avantage de l'alternance. J'ai fait tout mon cursus en alternance. Donc déjà, ça donne un carnet d'adresses. Et puis, les employeurs sont quand même moins frileux parce que même ça donne une expérience professionnelle, même si elle n'est pas forcément toujours reconnue en tant que telle. Ça donne quand même une expérience professionnelle. Moi, je conseille au maximum l'alternance. Ça permet aussi de savoir ce qu'on a envie de faire, si ça nous plaît vraiment.
L'alternance n'est pas toujours reconnue en tant que telle ?
Non, quand sur des offres d'emploi, on nous dit qu'on attend quelqu'un qui a 5 à 10 ans d'expérience professionnelle, on considère toujours qu'en sortant en alternance, même si on a fait 5 ans d'expérience en alternance, on ne considère pas qu'on vous considérera toujours en junior, on ne vous considérera pas autrement. Vous serez quand même débutant. Et surtout sur les grilles salariales, hein, faut pas se le cacher. Mais ça permet de trouver du travail. Et puis après, en communication, on a beaucoup de CDD, d'intérim, de contrats courts. Et faut pas hésiter à les prendre. Ça sert à rien. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, de courir tout de suite après le CDI, ça sert à rien. Ça fait des expériences. Alors, si vous avez la chance de tomber dessus, tant mieux. Et puis, si vous trouvez quelque chose qui vous plaît, tant mieux. Mais il y a tellement de thématiques et tellement de postes différents et d'entreprises différentes que, au contraire, si vous avez l'occasion de trouver des petits contrats en communication pour explorer diverses facettes et voir ce qui vous convient le plus, que ce soit une entreprise privée, une entreprise publique, une agence, une association, enfin, il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de postes et même auxquels on ne pense pas, dans des structures auxquelles on ne pense pas, et c'est l'occasion ou jamais de se tester, hein.
Vous avez parlé du fait qu'il y avait beaucoup de CDD, de petits contrats, d'alternance en communication. Est-ce un secteur qui est bouché ?
Alors bouché, je ne sais pas parce que je n'ai pas cette vision. En tout cas, je sais que sur les récents appels à candidature qu'on a fait, on avait énormément de candidatures, on va dire une centaine de candidatures sur un poste. Et je pense qu'actuellement, il y a plus de candidats que de postes disponibles, en tout cas en région.
Pourquoi, selon vous ?
Parce que, ben on en revient un petit peu aux formations, il y a beaucoup de formations. Et il y a beaucoup de formations un peu fourre-tout, on va dire, marketing, communication, etc. Donc au final, ça fait beaucoup, beaucoup de gens sur le marché. Donc je ne sais pas si tout le monde est vraiment très bien orienté à la base. Et puis, il faut, on va pas se le cacher, c'est des périodes compliquées économiquement pour les entreprises. Et la communication n'est pas toujours prioritaire dans toutes les entreprises. Donc... on embauche en période faste, on va dire, et puis en période moins faste, eh bien, on se restreint un petit peu sur les postes en communication parfois.
Avez-vous une idée du pourquoi, du comment c'est un secteur, enfin marketing avec la com, tout ça, qui intéresse beaucoup plus les étudiants que, je ne sais pas moi, par exemple, du financier, en école au moment de s'orienter, parce qu'ils se sont bien orientés à un moment donné vers un de ces secteurs-là?
Alors, je pense que vu de l'extérieur, ça paraît facile, sympa, assez fun. Et puis, on a quand même cette image influenceur, réseaux sociaux, etc., qui attire beaucoup. Moi, je vois dans les candidats, on a quand même beaucoup de profils community manager. Oui. Donc, il en faut, on en a besoin, mais peut-être pas autant que ce qu'il y a.
Ouais. Rien n'est facile dans la vie. Ma prochaine question, justement, c'est y a-t-il des contraintes auxquelles vous devez faire face et auxquelles vous n'étiez pas préparé lorsque vous avez commencé ?
Alors, comme tout le monde, les contraintes budgétaires, forcément, selon les entreprises où on est, on n'a pas forcément des budgets extensibles, qu'il faut savoir tout faire dans une enveloppe contrainte. Et puis, cette évolution constante dont je parlais précédemment, il faut vraiment rester à la page, et ça, des fois, c'est dur. La technologie évolue très, très vite. Là, par exemple, on arrive sur l'intelligence artificielle, il faut se former, il faut constamment se former et suivre les tendances, réseaux sociaux. Par exemple, je sais que moi, TikTok, c'est pas complètement ma génération, et ben je dois m'y mettre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas si simple que ça.
L'IA est-elle un outil pour vous et les graphistes plus particulièrement ?
Alors, nous, pour l'instant, on l'utilise assez peu, mais je pense que à l'avenir, et c'est pareil, il faut se former sur le sujet, s'informer sur le sujet. C'est vraiment un outil à prendre en main, et il faut qu'on apprenne vraiment à l'utiliser et à le mettre à profit.
A contrario, quels sont les points positifs du métier ?
Je pense que ça s'est ressenti un peu dans mes réponses précédentes. C'est un métier un peu passion. On voit des choses différentes tous les jours. On est en relation avec des gens au profil très différent dans l'entreprise, dans de presque tous les services au quotidien. Et en fait, on s'ennuie pas. Enfin, à mon sens, on s'ennuie pas parce qu'on a des sujets pour l'interne, pour l'externe. On parle aux jeunes, on parle aux vieux, on parle de choses différentes. Un coup, on rédige, un coup, on organise un événement. En fait, il n'y a pas de journée type, donc pour moi, c'est vraiment ça, le gros point positif de la communication, c'est qu'on ne s'ennuie pas.
Pour vous, quelles sont les perspectives d'évolution à l'avenir ?
Actuellement, je suis responsable du service. Donc dans l'entreprise, là, dans la CPM, il n'y a pas forcément d'évolution en termes de communication. Ça peut être de regrouper des services qui travaillent ensemble, comme la prévention ou le marketing, qui sont assez proches de la communication. Ou pourquoi pas à l'échelle nationale ou dans d'autres entreprises.
Quel avenir voyez-vous pour votre profession ?
Je pense qu'on aura toujours besoin de communicants. On le voit, hein, on a, sur toutes les thématiques, on aura toujours des sujets à partager au grand public et même pour l'interne. Il y aura toujours besoin. Après, je pense qu'on va connaître vraiment des grandes transformations, notamment avec l'intelligence artificielle, avec pour tout ce qui est communication interne, avec le télétravail, avec les nouveaux moyens de communication. En fait, il y aura forcément des évolutions vers les réseaux sociaux pour l'externe. Je pense qu'il faudra s'adapter, mais on aura toujours besoin de communiquer.
Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait travailler dans la com?
D'être motivé, d'être curieux et vraiment de ne pas lâcher l'affaire.
Oui, de ne pas abandonner.
C'est ça.
J'ai une toute dernière question pour finir cette interview. Avez-vous un meilleur souvenir à nous faire partager en lien avec votre métier?
Je suis en train de chercher parce qu'il y en a beaucoup. Quand j'étais alternante, j'ai travaillé 3 années de suite donc avec SNCF sur l'élaboration, enfin l'animation d'une communauté de coureurs inscrits au Running Loire Valley avec des petits déjeuners des coureurs, des conseils entre coureurs dans l'entreprise. Et vraiment, à la fin de ces 3 années, j'ai vraiment une évolution. On est arrivé à 250 coureurs et de voir tout le monde le jour J en groupe faire les photos, de voir un peu cette émulation collective. Là, je me dis, c'est vraiment pour ça que je travaille.
Oui, vous étiez fière de cet événement.
Ouais, vraiment.
Eh bien, Madame Oksana Richard, je vous remercie beaucoup pour cette interview. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous et j'espère que cela plaira à nos auditeurs.
Merci.
C'est déjà la fin de ce podcast sur Radio Campus Tours. J'espère qu'il t'aura plu et n'oublie pas de t'abonner sur la page Instagram d'Écoute un métier. À bientôt.